Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, thème du message « Nuit sur l'océan ».
Je vous propose que nous fassions une lecture dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, c'est le premier livre de la Bible dans le Nouveau Testament après les Évangiles, après l'Évangile de Jean par exemple. Et nous allons parler d'un homme, il s'appelle Paul. Alors, on est familiarisé avec son nom parce que c'est l'apôtre missionnaire, l'apôtre de... qui a répandu l'évangile dans tout le monde connu d'alors, enfin une grande partie du monde connu d'alors, l'apôtre Paul. Et cet homme a vécu des aventures tout à fait particulières, et à travers toute son existence, finalement de missionnaire, prêchant le nom de Jésus-Christ, il lui est arrivé toutes sortes de péripéties, entre autres celle-ci. Donc je vous situe cette lecture dans le livre des Actes au chapitre 27. Voilà, livre des Actes, chapitre 27, et l'apôtre Paul est condamné par les autorités à devoir comparaître devant le César à Rome pour rendre compte finalement de ses paroles, de ses propos, de ses actions, de ses agissements. Alors il va s'embarquer sur un bateau, il va quitter la Palestine, et pour se rendre dans la capitale de l'Empire. Et là, il va y avoir une tempête. Et cette tempête nous relate beaucoup de choses, parce que si nous voulons faire le parallèle avec nos vies, alors combien parfois nous pouvons rencontrer de tempêtes, d'ouragans, voire peut-être même de tsunamis dans notre existence, et d'en tirer les leçons pour nous-mêmes. Et l'apôtre Paul est un homme de foi. Alors, il nous enseigne comment sortir de la tourmente. C'est tout un programme, alors on va lire cela. Donc, il est embarqué sur un bateau, et il nous est dit au verset 7, et je vais lire une simple première partie d'abord. Voilà, donc acte 27, verset 7. « Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Snide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. » Nous passâmes sous l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lassée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos vies, pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire, plutôt que les paroles de Paul, et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Voilà pour la première partie. Nous arriverons d'ici quelques instants dans le naufrage. Mais rassurez-vous, restez bien assis sur vos chaises, vous ne craignez rien. Alors, on a donc cette histoire qui nous est relatée tout simplement dans la Bible, dans le Nouveau Testament, parce que nous voyons comment les hommes sont souvent imprudents. Et malgré les avertissements, malgré tout ce qu'il peut y avoir finalement autour de nous, des signes avant-coureurs, quelquefois nous avertissant des dangers, des menaces qui nous guettent, et bien de continuer à prendre la mer en disant on verra bien, on se débrouillera bien tout seul. Vous avez remarqué avec moi, il y a quand même cette phrase que nous avons trouvée en fin de lecture, il nous est dit qu'un léger vent du sud vint à souffler. Et voilà que ces hommes, se croyant maîtres de leur sort, levèrent l'ancre et ils sont partis. Alors c'est vrai que la Bible nous prévient que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, comme vous connaissez naturellement eh bien, cette formule. Et nous avons différents personnages dans ce paragraphe que nous avons lu. Il y a le centenier, qui est un capitaine, un militaire naturellement, qui est chargé d'accompagner Paul et quelques-uns de ses compagnons qui sont prisonniers pour aller eh bien, jusqu'à Rome, comparaître devant l'empereur. Et puis il y a le pilote du bateau. Alors, ça requiert quand même une certaine compétence, hein, conduire un navire. Malheureusement, on sait que, hélas, parfois il arrive des catastrophes. Et puis il y a l'armateur, il est appelé le patron. Et nous voyons que au moment où les choses vont commencer à se préciser dans le péril de naviguer eh bien, en plein hiver, parce que c'est la saison de l'hiver, alors qu'on sait très bien que passé un certain délai vers le mois de novembre, dans l'Antiquité, eh bien, les bateaux restaient au port. C'était pourtant la Méditerranée qui est appelée l'Adriatique ici. Et on sait très bien que la mer étant très mauvaise, alors on ne risquait pas d'envoyer des hommes, on ne voulait pas risquer d'envoyer des hommes et des cargaisons de toutes les provinces de l'Empire pour aller jusqu'à Rome, parce que ça comportait en effet un véritable danger. Alors, on voit, et pour reprendre un petit peu les choses, d'abord, quand Paul est sur le bateau, il y a à peu près 273 personnes, ce qui comportait déjà à l'époque un navire assez conséquent. Et nous voyons qu'ils ont commencé à naviguer lentement, pas de souci, hein. Il semblerait que tout va bien, mais il y a une lenteur, parce qu'ils montent probablement devant. Et néanmoins, il nous a dit, ce ne fut pas sans difficulté, que le navire a atteint une certaine côte, qui s'appelle Fnide, et quand ils ont voulu aborder là, pensant peut-être qu'il valait mieux hiverner dans ces parages, il nous a dit que le vent ne nous permit pas d'aborder, c'est-à-dire qu'il est renvoyé vers la mer. Et ça, c'est quand même assez inquiétant, parce qu'ils auraient bien voulu peut-être, après avoir embarqué, avoir navigué quelque temps, eh bien, se mettre à l'abri, mais ça n'a pas été possible. Donc, ils ont été emportés un peu plus loin. Et dans ce que nous avons lu, il nous est dit qu'ils ont contourné l'île de Crète, hein, vous voyez à peu près où ça se situe, et nous voyons qu'à ce moment-là, eh bien, ils ont côtoyé, avec peine, nous est-il précisé, eh bien, la côte, et ils sont arrivés donc à un endroit. Donc il nous est donné tout simplement le nom. Ensuite, un temps assez long s'était écoulé, la navigation devenait réellement dangereuse. Mais à partir de ce moment-là, eh bien, il semblerait qu'ils aient perdu un peu le contrôle des choses. Que malgré l'habileté, les compétences de tous ceux qui étaient sur le navire, eh bien là, ils ont été finalement eh bien, rejetés à la mer en quelque sorte. Et il était prévisible que les choses ne se passeraient certainement pas très très bien. Alors Paul, qui n'avait rien à voir dans cette affaire, parce que ce n'était pas un marin, ce n'était pas un homme de la mer, mais il a senti à l'intérieur de lui-même qu'il y avait probablement quelque chose à faire et à dire. Et il est allé voir finalement les responsables de l'équipage, et il leur a dit tout simplement cette parole, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril, sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » L'apôtre Paul, quand il a parlé de cette manière, ne parlait pas en connaisseur. Il ne parlait pas en expert. Mais il parlait parce qu'il ressentait à l'intérieur de lui-même, non pas qu'il avait peur, mais il ressentait que, eh bien, il y avait certainement un message à donner à ces hommes téméraires qui, quelque part, sûrs d'eux-mêmes, allaient s'engager dans une aventure dont ils ne reviendraient peut-être pas en raison, non seulement de l'époque avancée, mais également des difficultés qu'ils allaient rencontrer eh bien, au milieu de la mer. Alors il nous a prévenus. Et vous avez remarqué avec moi, il nous a simplement dit que le centenier écouta le pilote. C'était lui qui était responsable de Paul et puis de tous ceux qui étaient finalement une partie de ceux qui étaient sur le navire. Et il a préféré cet homme écouter donc le pilote et le patron du navire plutôt que d'écouter les paroles de Paul. Alors c'est intéressant parce que, vous savez, moi je pense que nous avons une formule qui nous est laissée dans le livre de Job, toujours dans la Bible, où il nous est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et vous savez ce qui est ajouté? C'est qu'on n'y prend pas garde. Parce que Dieu est capable de parler aux hommes, quels qu'ils soient, les uns et les autres. Il ne parle pas seulement aux croyants, il ne parle pas seulement aux chrétiens, mais Dieu parle à tous les hommes, j'en suis tout à fait convaincu, d'une manière ou d'une autre. Dans le prolongement de ce texte de Job, il nous est dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes, par des visions. Il peut parler à travers notre conscience, il peut parler aussi faisant apparaître le bon sens, le plus normal et le plus naturel. Dieu peut parler à travers la bouche de quelqu'un, ou de toutes sortes de moyens qu'il dispose. Et nous voyons que ces gens, on a cité le centenier, on a cité le pilote, on a cité le patron et probablement tout l'équipage, ils se sont dit, mais qu'est-ce que nous raconte cet homme que nous avons embarqué? D'abord, c'est un prisonnier. Et qu'est-ce qu'il connaît à la navigation? Nous, nous sommes des matelots chevronnés, nous avons l'habitude, nous avons essuyé tant et tant de tempêtes que ce n'est pas encore cette fois qu'ils iront par le fond. Alors, on voit que les paroles, pourtant, qui étaient des paroles, me semble-t-il, inspirées, sont passées comme ça. Et vous savez, je pense que tout cela nous montre que parfois nous sommes interpellés à écouter ce que nous n'avons pas l'habitude d'écouter. Parce qu'il y a des choses dans notre vie qui méritent, pour lesquelles nous avons besoin de prêter attention parce qu'il en va de notre vie, il en va de notre salut, surtout de notre salut. Et ce centenier, pourtant, est un soldat bienveillant. Il essaie de tout faire pour faciliter le voyage de Paul et des autres. Il y a le pilote qui est un spécialiste, finalement, de la navigation. Il pourrait dire, mais moi, je suis seul maître à bord. Après Dieu, c'est moi qui dirige. Puis il y a le patron, qui est un homme d'affaires. Et lui, pour lui, il veut que la traversée se fasse le plus vite possible. Parce que, étant donné qu'il est homme d'affaires, ses intérêts sont investis dans toute la traversée. Et vous savez que dans l'Antiquité, on amenait beaucoup de céréales du Moyen-Orient jusqu'à la capitale de l'Empire. Donc ça représentait certainement une fortune, comme les bateaux que nous avons ici à Saint-Nazaire, qui sont chargés de toutes sortes de produits, toutes sortes de choses, et qui représentent des fortunes. Alors chacun avait certainement sa raison pour dire, on prend la route et on continue. Pourtant, la plupart des passagers ont été d'avis, finalement, à continuer. Et Paul va se retrouver, finalement, seul contre tous. Parce que il est le seul homme qui va écouter la voix de Dieu à l'intérieur de lui-même et qui va lui obéir. Et cette obéissance, s'appelle tout simplement la foi. Ouais. Et là, c'est la foi qui va faire la différence. Entre un naufrage prévisible qui ne pourra pas être évité, et puis ce que Paul sait en lui-même, alors qu'il n'a pas de connaissance de la navigation, mais il sait les choses. Et il va dire ce qu'il a à dire. Alors, dans cette première partie, on pourrait résumer de cette manière, entre ce centenier, ce pilote, ce patron, ce sont tous des experts et des spécialistes de la pensée, de ce qu'il faut faire, du savoir-faire, de l'intelligence de la navigation. On pourrait dire que, quelque part, ils connaissaient leur métier, ils connaissaient et ils savaient ce qu'il fallait faire. Alors Paul va se retrouver donc, comme je l'ai dit, seul devant, contre tous. Pourtant, on s'aperçoit que par la suite, et nous allons le développer, pourtant les circonstances et sa foi en Dieu lui ont donné raison. Et ça, c'est la grande question qui se pose dans notre monde, entre le croyant et l'incroyant. Entre celui qui fait foi, qui fait confiance à Dieu, et l'incrédule. On peut toujours se donner de bonnes raisons de dire, nous savons. Mais qu'est-ce que nous savons de l'avenir? Qu'est-ce que nous savons de demain? Vous savez que nous vivons dans une période d'incertitude. Alors allez à tous les niveaux aujourd'hui, et les gens ne sont pas très très heureux parce qu'ils sont inquiets. Et je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'inquiétude que dans nos temps. Je ne suis pas en train d'agiter finalement les peurs et les angoisses. Mais on le sait, c'est les médias qui le rapportent tous les jours. Il y a une chose dont nous sommes certains, c'est que nous connaissons notre passé. Ça, c'est clair. Si nous ne l'avons pas oublié. On connaît bien notre présent, parce que c'est notre vécu d'aujourd'hui. Mais quant à notre avenir, on ne le sait pas. Et je pense que nous avons, dans la Bible, affaire à un Dieu qui est bienveillant. Et je tiens quand même à souligner cet adjectif. Parce que, quoi qu'on en dise, quoique parfois il y ait beaucoup de monde qui hausse les épaules lorsque nous parlons de Jésus, nous parlons de Dieu, nous parlons de la Bible, quoi qu'il en soit, ce que nous avons découvert par l'expérience, c'est que Dieu est un Dieu de bonté et de bienveillance qui ne veut pas qu'aucun homme périsse, soit perdu et périsse. Alors, l'histoire qui nous est racontée, elle est scalée. Mais d'une manière générale, eh bien, ça, c'est la pensée de Dieu. C'est véritablement eh bien, le souci de Dieu. Et on va voir qu'il y a diamétralement une opposition diamétrale entre, finalement, eh bien, ce que l'homme pense pouvoir réussir et ce que Dieu veut. Alors, si l'on continue, on va comprendre les choses peut-être, eh bien, peut-être beaucoup plus précisément. Il nous est dit comme... Au moment où ils sont arrivés, pensant pouvoir arrêter à ce port, comme il n'était pas bon, alors la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre encore un autre port et d'y passer l'hiver. Ce qu'ils auraient mieux fait, c'est de ne pas partir. Et là, ils sont en train de faire du cabotage le long des côtes, en disant, bien, on va peut-être trouver quand même un secours. Ça, c'est un petit peu l'esprit des hommes. On se lance à l'aventure et on se dit, si ça ne va pas, je trouverai toujours un refuge, je trouverai toujours un abri. Mais quelquefois, eh bien, les choses ne sont pas toujours possibles. Et ce que nous avons lu et que j'ai donné quelques mots sur le texte il y a un instant, écoutez bien, lorsque tout commence là, il nous est simplement dit qu'un léger vent du sud vint à souffler. Vous savez, quelquefois on peut reprendre courage, même lorsqu'on part dans une mauvaise direction. Parce que ce petit vent du sud, qui est un vent chaud d'abord, mais un vent suffisamment puissant, a donné confiance, ils se sont embarqués, ils se sont dit avec un vent comme ça, eh bien il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Et c'est ça justement le problème de l'homme, d'une manière ou d'une autre, c'est qu'il commence à faire un pas en avant, il vaudrait mieux pas qu'il en fasse deux ou trois, mais il est encouragé quelque part par des signes extérieurs, comme le vent, comme toutes sortes de choses, par des sentiments, par une volonté tenace de dire on y arrivera quand même, et qui fait que, eh bien, le texte nous dit d'une manière, se croyant maître de leur sort. Et c'est bien ça justement la grande différence entre celui qui met sa confiance en Dieu, qui fait confiance à ce qu'il ne sait pas, et qui sait que celui qu'il prie, c'est tout, alors à ce moment-là, ça change. Ça change les donnes, finalement, de notre aventure, qui est tout simplement l'aventure de la vie. Écoutez bien, se croyant maître de leur destin, ils levèrent l'ancre, et c'est comme ça qu'ils vont se embarquer dans une aventure qui nous est tout simplement eh bien, rapportée un peu plus loin, que je voudrais justement donner... quelques commentaires, il nous est dit, mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euraquilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Voilà. Voilà la question qui est posée. Il y a un vent léger qui les encourage à continuer dans leur entêtement et à un moment donné, il y a un autre vent qui va venir. Euraquilon, c'est le nord. Voyez toutes les contradictions, hein. Qu'il peut y avoir, et si nous nous fions seulement à nos impressions et à tout ce qui se passe, tantôt encouragés, tantôt découragés, alors à ce moment-là, nous risquons d'être véritablement malmenés à un moment ou à un autre. Il faut dire que l'homme est très sensible à se laisser conduire par ses sens, par sa connaissance ou quelquefois par ses expériences. Et avec cela, il se dit, bien, j'ai pas besoin de Dieu, je suis suffisamment grand, je suis suffisamment fort, et ce vent impétueux se déchaîna sur l'île. Voilà. Le mot déchaîner, c'est quelque chose qui, quelquefois, eh bien, a son sens. Et on se souvient de ses disciples qui étaient dans la barque en pleine nuit, où Jésus les a rejoints en marchant sur la mer. Vous connaissez cet épisode, hein, naturellement, de l'Évangile. Et là, ils ont fait une expérience terrible. Hein. Enfin, terrible dans un premier temps, et merveilleuse de la manière dont Dieu les a sortis de cette tourmente. Et nous voyons que le navire, à ce moment-là, est entraîné sans pouvoir lutter. Il y a des circonstances dans notre vie, que ce soit la maladie, que ce soit parfois des situations d'ordre familial ou conjugal, ou peut-être qui a rapport peut-être à notre vie économique ou autre, professionnelle, peu importe, ça n'a pas d'importance, morale, naturellement, où là, eh bien, il y a un déchaînement, un concours de circonstances qui s'accumulent, et nous voyons que eh bien, nous sommes comme des fétus de paille sur l'océan, vous comprenez, comme des coquilles de noix, parce que, comme cela nous est dit, sans pouvoir lutter contre le vent. Il y a des vents qui sont plus forts que nous, hein, des vents contraires dans notre existence. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il nous est simplement dit qu'il se laissait aller à la dérive. De quelle dérive parlons-nous? Alors là, si on prend dans le texte, on s'aperçoit que Il pouvait y avoir des voiles sur le bateau, il pouvait y avoir certainement eh bien, tous les moyens de pouvoir contrer le vent, mais là, c'était impossible. Le vent était trop fort. Et c'est comme dans l'existence, c'est comme dans la vie. Il y a des choses qui nous arrivent par vagues successives, et qui fait que nous nous épuisons à crier, nous nous épuisons dans l'angoisse, nous nous épuisons dans l'inquiétude, à essayer de comprendre ce qui nous arrive, et quelque part ça nous renvoie toujours en arrière, ou ça nous renvoie vers le fond. Les disciples de la barque sur le lac de Tibériade, c'est ce qui leur arrive. À un moment donné, ils vont croire, ils vont voir une silhouette marchant sur l'eau, et ils vont dire que c'est un fantôme. Vous savez, les fantômes de l'imagination, on en a parlé il y a quelque temps. Et ces hommes, eh bien, à un moment donné, lorsqu'on est au bout de nos ressources, quand on a pensé être maître de notre sort, maître de notre vie, et qu'on a bien lutté, qu'on s'est donné, on s'est dit que ben, finalement on s'en sortirait quand même, et qu'on n'arrive à rien, alors ça devient tout simplement une dérive. Et là, on ne maîtrise plus rien, on ne comprend plus rien, on n'explique plus rien, on se laisse aller. Et c'est souvent le découragement. Alors, je pense que tout cela est écrit pour que nous puissions en tirer quelques exemples et que nous puissions véritablement réfléchir sur la chose. Alors, il nous est simplement précisé un peu plus loin, nous passâmes au-dessus d'une petite île qui s'appelait Koda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maître de la chaloupe. Pour l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour saindre le navire. Quand on est dans la tempête sur un navire qui est en train de couler, c'est formidable d'avoir une chaloupe. Vous savez, c'est toujours le moyen de secours. On se dit, si le bateau coule, il y a la chaloupe. On la mettra à la mer et puis on pourra être sauvé. Mais un bateau qui comprend, eh bien là, un équipage avec les passagers de 275 personnes pour en faire monter tout le monde dans la chaloupe, il risque d'y avoir de la bagarre, hein, pour pouvoir finalement eh bien, être sain et sauf. Et ils avaient quand même gardé la chaloupe, hein, mais ils ont eu beaucoup de peine. Alors, ils ont essayé de ceindre le navire parce qu'il commençait à craquer de tous les côtés. Vous savez, quelquefois dans l'existence, nos beaux projets, nos belles images, nos belles idées, nos belles illusions, nos théories, eh bien, elles sont un peu comme ce bateau qui est en train de prendre l'eau. Hein. Il faut serrer ça de plus en plus parce qu'on s'aperçoit que ça ne va pas tenir très longtemps. C'est ce qui se passe. Ce sont des allégories que je suis en train de donner dans le commentaire eh bien, de cette aventure de Paul sur ce bateau. Et dans la crainte de tomber donc, sur un rivage, on abaissa les voiles. Et vous savez, quand on abaisse les voiles sur un bateau, il ne bouge plus. Enfin, c'est-à-dire il ne bouge plus avec le vent pour nous emmener dans la bonne direction, mais il est là tout simplement eh bien, à monter et descendre hein, sur la crête des vagues. Et imaginez-vous un peu ce que ça pouvait représenter. Et ils se sont laissés donc emporter. Quand on abaisse les voiles du courage, les voiles de l'espérance, les voiles de la foi, eh bien, à ce moment-là, il ne reste pas grand-chose, tout simplement. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Imaginez-vous que tout a passé par-dessus bord. Il y a des vies, quelquefois, et nous en avons rencontré, des vies où tout est en train de faire naufrage, des vies où ça prend l'eau, de tous les côtés. On le voit malheureusement dans certaines situations sociales ou familiales, d'une manière ou d'une autre, parfois même dans les couples, où on peut dire que finalement il n'y a plus grand-chose, hein, que tout est prêt de sombrer. Et dans ce qui nous est simplement eh bien, présenté, c'est qu'ils auraient été obligés de tout lâcher. Il y a des choses que nous avons besoin d'abandonner. Ils auraient bien voulu garder tout, hein. Certainement que le patron du navire devait faire qui devait être complètement ahuri de voir une chose pareille. Et c'était probablement pas la première traversée qu'il faisait, mais celle-ci, elle était sérieuse. Et dans la vie, on peut passer par nombre d'épreuves, mais quelquefois, il y en a une qui est plus dangereuse que toutes les autres, et vraiment plus impressionnante que toutes les autres. Et ils ont été obligés de mettre tout par-dessus bord pour être sauvés. Vous savez, quelquefois, on a vu des commentaires, ou enfin, on a entendu des commentaires, ou vu des images. Quand les gens sont en danger, ils essaient de récupérer tout ce qu'ils ont. Dernièrement, je regardais un reportage sur l'effet de guerre de la dernière guerre mondiale. Il y a des gens qui se renfermaient alors qu'ils étaient prévenus de descendre des étages, de l'immeuble pour aller se mettre à l'abri. Eh bien, parce que finalement, eh bien, ils voulaient garder leur meuble, ils voulaient garder tout. Elles sont passées sous les décombres, hein. Ils ont été bombardés avec le reste. Moi, je dis que c'est une folie. Vous savez, les choses ont moins de valeur que la vie, hein. Notre âme, notre salut est plus important que tout le reste. Parce que, une fois qu'on est mort, vous savez, ça ne sert plus à rien tout cela. Et de voir l'attachement des gens, de voir combien ils sont fébriles et attachés à des choses qui n'ont qu'une valeur relative. Je ne suis pas en train de dénigrer le matérialisme. Au contraire, il faut vivre avec cela, parce que ça fait partie de l'existence et on en a besoin. Mais de voir qu'on a remplacé finalement les moyens par des choses, on a remplacé les buts, pardon, par des choses qui sont secondaires. Et vous savez, cette expression « sauf qui peut », ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on voit l'histoire, par exemple, de la femme de Lot, dans le livre de la Genèse, qui, elle, alors qu'elle avait été prévenue de ne pas regarder derrière elle, parce que la ville de Sodome et Gomorre était sous le feu, alors qu'elle avait reçu de la part de Dieu de finalement eh bien, de ne pas regarder à son passé, c'était plus fort qu'elle. Son cœur était attaché à sa vie ancienne. Alors elle a regardé et vous savez comment ça s'est terminé. Elle a été pétrifiée, tout simplement. Et nous voyons que dans le cas qui nous intéresse, il nous est dit qu'ils ont lancé de leurs propres mains. Ça voulait dire qu'ils voulaient se débarrasser parce qu'ils savaient que si le bateau était trop chargé, eh bien il allait certainement sombrer à un moment donné. Et vous avez cette petite assertion qui nous est donnée dans le verset 20. Il nous est dit que le soleil et les étoiles ne parurent point pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdions enfin toute espérance de nous sauver. Ouais. Quand la mer est en furie, quand dans notre vie, il y a des vagues insurmontables, des vagues meurtrières, quand il y a toutes sortes de choses qui lâchent, que nous sommes obligés de passer par-dessus bord, tout ce qui nous est inutile, tout ce qui ne nous servira pas, tout ce qui va encore compliquer peut-être notre salut, et que finalement vous vous trouvez en pleine nuit, que le soleil le jour ne paraît pas et que la nuit, elle est tellement obscure qu'on n'y voit plus rien, même les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Je peux vous dire que ça vous donne le moral. Parce que quand il y a des épreuves dans l'existence, quand il y a des choses, des revers de fortune, et qu'il n'y a même pas une lueur, que vous êtes dans l'obscurité, que vous êtes dans le noir, alors ça doit être quelque chose qui doit inspirer l'angoisse et une profonde anxiété. Ça c'est... Vous savez, l'homme a besoin justement d'avoir une espérance. Il a besoin d'avoir une lueur au fond de son cœur. Il a besoin d'avoir la lumière. Et ce n'est pas pour rien que c'est le roi David nous dit ceci, dans la Bible naturellement, il écrira « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et vous savez, on peut traverser toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés. Il peut y avoir là, eh bien, la tourmente dans notre existence. Mais ce qui fait la différence entre l'incrédule qui croit que ce qu'il voit et le croyant qui fait confiance à l'invisible, oui, qui fait confiance à l'invisible parce que Dieu est invisible, mais par contre, il nous parle, il nous laisse sa parole, et sa parole, elle est pleine de promesses lorsque nous traversons des moments cruciaux, des moments pénibles, des moments difficiles. Et le croyant sait faire la différence, c'est que lorsqu'il traverse des moments semblables, eh bien, il se retourne vers la Bible. Il tourne les pages de l'Évangile. Il prie. Il demande à Dieu son secours. Et Dieu ne manque pas de lui faire faire de belles expériences de délivrance, de secours, de le rassurer. Et de lui dire, comme nous l'entendons si souvent de la bouche même de Jésus, quand il rencontre des gens dans l'infortune, vous savez ce que Jésus dit à chaque fois ? Ne crains point, crois seulement. C'est pas facile. Quand tout autour de vous est en train de disparaître, de sombrer, et qu'il faut croire à ce que vous ne voyez pas. Il faut croire à des paroles qui sont consignées dans un livre, comme on appelle la Bible, parce que c'est Dieu qui parle et il parle fort. Et la différence qui se fait, c'est que Dieu parle au cœur des hommes. Il ne parle pas à notre intelligence, bien qu'il parle à notre intelligence. Il parle souvent, il parle avant tout à notre cœur, à notre conscience. Et il nous dit qu'il est le Dieu de la vie, non pas le Dieu de la mort. Qu'il est le Dieu de la délivrance et non pas le Dieu qui nous abandonne. Dieu est fidèle. Alors, il nous est dit qu'après cette obscurité qui tombe dans cette situation, comme bien des gens dans notre temps le vivent, à travers l'anxiété, à travers l'angoisse, à travers ces dévastations de la vie psychologique, c'est-à-dire de notre âme, où les gens sont profondément malheureux. Il m'arrive assez souvent de voir des gens et d'aider les gens et d'encourager des gens qui sont dans la déprime. Je peux vous dire que c'est terrible. Souvent, ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'ont plus la vie. Vous voyez, quand on est en bonne santé psychologique, quand on est en bonne santé finalement, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est quand on ne l'est pas. Des gens qui traversent une inquiétude, l'anxiété, qui vivent la dépression nerveuse. Quoi ? C'est affreux, hein ? C'est comme s'ils étaient en dehors d'eux-mêmes. Ils marchent dans du coton. Plus rien n'est... Il n'y a plus de goût à rien. Et c'est affreux. Et pourtant, moi je crois pertinemment que Dieu est venu pour nous délivrer de cet état intérieur. On peut être malade physiquement. Quelqu'un me disait dernièrement, il y a encore quelques jours, il me disait, mais moi je préfère être malade, avoir peut-être quelque chose de physique. C'est vrai que c'est terrible, ça fait mal, que d'être atteint dans mon âme. C'est affreux, ce sentiment de ne plus être soi-même, de ne plus avoir le goût de vouloir mourir finalement. Alors, il nous est dit que la tempête était si forte que nous perdîmes, et vous avez remarqué le petit mot, enfin l'espérance. Vous savez, ils avaient perdu une espérance pour en retrouver une autre. Ils avaient une espérance en eux-mêmes, ils avaient une espérance peut-être dans le pilote, dans le patron, dans tous ceux qui étaient là pour sauver finalement du naufrage, sauver le navire. Mais il faut perdre une espérance pour en avoir une autre. Il faut lâcher un côté pour gagner de l'autre. Qui perd, gagne. Ça, c'est les principes de l'Évangile. Qui perd, gagne. Jésus nous dit que si vous voulez conserver votre vie, vous la perdrez. Mais si vous la donnez pour moi, nous dit Jésus, eh bien, vous la retrouverez. Et ça, c'est le principe même de la foi dans la parole de Dieu, dans l'Évangile. Alors, nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. De nous sauver. Mais il y a quand même une différence. Ils ont perdu cette espérance de se sauver eux-mêmes, mais c'est à ce moment-là que Dieu s'est levé pour leur dire, eh bien, c'est pas vous qui allez vous sauver vous-même, mais c'est moi qui vais vous sauver. Alors à ce moment-là, une nouvelle espérance commence. Faut-il arriver à ce point d'extrémité pour renoncer à nous-mêmes, renoncer à nos forces, renoncer à nos capacités, à notre prétendue sagesse ou intelligence, d'y arriver pour nous abandonner entre les mains de Dieu en disant « Seigneur, je suis perdu ». Ça, je crois que c'est surtout ce que le Seigneur veut nous entendre. « Je suis perdu » et Dieu nous répond « Eh bien, moi je vais te sauver parce que tu crois que tu es perdu ». Le drame de notre monde, c'est que le monde ne croit pas qu'il est perdu. Alors il n'a pas besoin de Dieu. À partir du moment où nous avons besoin de Dieu, nous crions à lui et c'est lui qui nous sauve. Et c'est ça bien la grande différence. Et c'est formidable. C'est une expérience qui marque la vie des hommes. Ouais, c'est ce qu'on appelle la conversion. Ce n'est pas d'avoir une religion. Ce n'est pas d'avoir une prétention à croire dans une théologie religieuse ou autre chose. Le monde est plein de ces religions. Est-ce que nous avons besoin, ce que les hommes ont besoin, c'est de croire qu'il y a un Dieu qui les aime. Pas un Dieu qui condamne, mais un Dieu qui les aime. Un Dieu qui leur tend la main, qui est là pour finalement leur dire tout simplement, comme Jésus le disait dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, quand il dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il faut se sentir fatigué et chargé. Alors à ce moment-là, on s'abandonne entre les mains de Dieu, et c'est ce qui s'appelle la foi. C'est la foi spirituelle, ce n'est pas une foi religieuse. C'est une foi qui nous entrouvre finalement les possibilités infinies qu'il y a dans la prière et de comprendre que Dieu est celui qui nous exauce. Enfin toute espérance, nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Il fallait m'écouter. » Est-ce qu'on a envie d'écouter des gens qui nous parlent de Dieu? Est-ce que nous avons envie d'écouter des gens qui nous parlent de l'Évangile ou de Jésus-Christ? Est-ce que nous avons envie d'entendre parler des gens, comme ce soir, qui ouvrent l'Évangile pour en faire le commentaire? On serait beaucoup plus nombreux hein, dans cette ville. C'est ça, toutes les chaises seraient pleines. C'est que les gens n'ont pas envie. Moi, je ne me fais pas d'illusions. Hein. Parce que Dieu attire les hommes qui sont bien disposés à écouter sa parole. Et c'est à ces hommes-là, à ces femmes-là, qu'il va parler et auxquels il va donner eh bien, sa grâce et son secours et son salut. Être disposé à, tout simplement. Et Paul, il y a des dizaines et dizaines de personnes qui sont en danger de mort sur ce navire, mais il n'a pas été écouté. Il n'a pas été écouté, pardon. Il leur dit d'ailleurs, mais il fallait tout simplement d'écouter. Moi, je vous aurais dit qu'il ne fallait pas partir. Eh oui. C'est bien la difficulté de notre monde aujourd'hui, notre monde occidental, de culture chrétienne, mais qui n'a plus rien de chrétien. Il faut bien le reconnaître. On parle de désaffection de la foi, on parle d'abandon de la foi, on parle d'apparence, finalement, de la foi. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus préoccupés par autre chose. L'argent, et puis les loisirs, enfin, je ne juge pas, je constate. Mais combien de malheureux? Combien de gens sont-ils dans l'angoisse? Combien notre pays, eh bien là, comporte de gens qui sont complètement anéantis à l'intérieur d'eux-mêmes, sans assurance? On est le deuxième consommateur au monde, après les États-Unis, d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de somnifères, de tranquillisants et tout ce que vous voulez. C'est qu'il y a des raisons. Et pourtant, nous vivons quand même dans un matérialisme avancé. Et pourtant, ça ne peut pas satisfaire. On a chanté un petit cantique tout à l'heure. Il était question, il satisfait. Voilà. Dieu satisfait. On peut ressembler quelque peu à la Samaritaine qui revient pour tous les jours chercher de l'eau à son puits. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 4, vous pourrez le relire. Et cette femme revient tous les jours. Et Jésus lui dira, mais quand bien même tu viendrais tout le reste de ta vie, tu auras toujours soif. Parce que moi j'ai une autre eau, j'ai une autre chose à te donner que tu ne connais pas. Et celle-ci va te remplir finalement de satisfaction et d'abondance à l'intérieur de toi-même. Le monde il est malade parce qu'il est peut-être plein de toutes sortes de choses. Comme ce navire qui est chargé, qui croule sous le poids là, hein, qui est prêt de faire naufrage, alors que quelque part eh bien, les gens sont vides à l'intérieur. C'est une misère, une indigence morale, spirituelle. Les hommes ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Alors il fallait m'écouter. Maintenant je vous exhorte à prendre courage. C'est bien de pouvoir l'entendre. Hein. Et moi c'est ce que je voudrais vous dire. Prenez courage, quelle que soit votre situation. Prenez courage. Car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Et Paul va dire pourquoi il a parlé comme ça. Paul est un prophète. C'est ce que c'est qu'un prophète. Quelqu'un qui parle de la part de Dieu, des choses qui ne sont pas arrivées, mais qui vont arriver, qui ne manqueront pas d'arriver. Alors il y a des faux prophètes, on le sait, mais il y a des vrais prophètes aussi. Dans la Bible, il y a des vrais prophètes. Alors il dira ceci, « Un ange du Dieu qui m'appartient et que je sers m'est apparu cette nuit. » Je voudrais quand même préciser une chose, c'est que Paul n'est pas un illuminé. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui ont des illuminations en disant « Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé », alors on laisse ça de côté, hein. Parce que ce n'est que leur propre interprétation ou leur propre inspiration qu'ils sont en train de mettre en avant. Mais Paul était un vrai. Et il dira, mais voilà, moi j'ai une révélation. Dieu m'a parlé au fond de mon cœur. Et il parlera d'un ange de Dieu. Et il dit qu'il a reçu à ce moment-là une promesse de conservation de la vie. Il dira, mais cet ange lui dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Il avait été permis à Paul, après 2 ans d'emprisonnement à Césarée, en Palestine, de devoir faire ce terrible voyage pendant des semaines et des semaines pour aller comparaître devant l'empereur à Rome. Ça, c'était dans le plan de Dieu. Il n'y a rien de réjouissant. Il va faire encore 2 ans de prison à Rome. Mais il fallait qu'il y aille. Parce que Dieu lui avait dit, quand il a été appelé à devenir apôtre, « Tu rendras témoignage du Dieu d'Israël devant les rois, devant les grands de cette terre. » Et c'est ce qui s'est passé. Et quand il y a un homme qui a un plan à accomplir, comme dit Jésus, « Pas un seul cheveu de votre tête ne tombera, que la volonté de Dieu se fasse. » Donc c'est pour ça. Et il le savait, Paul, qu'il avait cette promesse, qu'envers contre tout, il y aurait peut-être des dangers, il y aurait peut-être une tourmente, il y aurait probablement un ouragan sur sa vie et aussi sur le bateau, mais que finalement il s'en tirerait. Et c'est ça la conviction des chrétiens. On n'est pas invulnérable, mais nous avons la foi et nous avons des certitudes et des assurances dans notre cœur qui nous fait dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses plans. Et le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Alors il ajoutera, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Et si je vous disais, pour terminer, ce que nous entendons ce soir, n'est pas la parole du pasteur. Ce n'est pas la représentation d'une théologie, d'une église qui s'appelle Sainte Évangélique à Saint-Nazaire. Ce n'est pas ça. Mais je crois fermement, et je ne suis pas le seul, à partager cette conviction à l'intérieur de moi-même que ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Et que nous pouvons venir devant lui, que nous pouvons le prier, que nous pouvons l'implorer dans toutes les circonstances, même voire dramatiques de notre vie, en péril de naufrage, peut-être en péril et en menace de mort. Mais d'une manière ou d'une autre, Paul le dit bien d'une manière admirable, parce que j'aime beaucoup ce texte, il dit « rassurez-vous ». Et ce soir, parce que vous avez entendu cette parole, eh bien, je vous demande de la garder dans votre cœur, de la serrer au plus profond de vous-même, et de pouvoir vous rassurer devant peut-être ce qui vous assaille dans vos pensées pour vous affoler, pour vous troubler, pour vous dire « j'y arriverai jamais ». C'est perdu pour moi, c'est terminé pour moi. Ça, c'est l'adversaire qui essaie de vous suggérer le mensonge. Parce que quand Dieu a dit une chose, il l'accomplit. Dieu tient parole. Et Paul dira à tous ses compagnons qui sont affolés sur ce bateau, il leur dit « mais rassurez-vous ». Et il y a une chose qui est forte, une chose qui est puissante, c'est lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous entendons un message de l'Évangile, d'une manière ou d'une autre, celui-ci ou un autre, peu importe, Dieu vient dans nos cœurs pour nous rassurer. Dieu ne nous effraie pas, Dieu n'est pas venu pour nous condamner et nous terroriser. Dieu fait le contraire précisément. Et nous avons vu des centaines et des milliers de personnes venir dans nos réunions, ici et ailleurs, et repartir alors qu'ils sont venus dans la peine, dans l'embarras, dans peut-être une profonde angoisse, et repartir avec une joie au fond de leur cœur, en sachant que ce qu'ils avaient entendu, ce n'était pas la parole d'un homme, ce n'était pas la parole d'une église, mais c'était la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste à travers les promesses que Dieu nous fait. Alors rassurez-vous. Si vous êtes dans la crainte, rassurez-vous, et Paul ajoutera, car j'ai cette confiance en Dieu, pas en lui, pas dans les uns et dans les autres, mais en Dieu, qu'il en saura comme il m'a été dit. Alors nous pouvons dès lors prendre la Bible, la parole de Dieu, le message de l'Évangile, et de lui dire, eh bien Seigneur, tu m'as dit, je crois que tu m'as parlé ce soir, je crois que tu m'as adressé un appel, que tu m'as fait des promesses, eh bien moi je crois que ces promesses, tu vas les réaliser. Parce que la véritable foi, la foi solide, la foi qui est enracinée et qui va tenir le coup devant tous les naufrages, traverser finalement les océans, eh bien c'est cette foi qui s'appuie sur ce que Dieu nous dit. Nous pouvons le prier, nous pouvons le déclarer, nous pouvons le confesser que le Seigneur, que Dieu n'est pas un Dieu qui ment, mais il nous dit la vérité. Et comment le vérifier? Eh bien ça se trouve au fond de notre cœur. Nous avons fait, j'ai fait personnellement des expériences de cette nature avec une certitude et une assurance que tout était contraire dans mon existence. Tout pouvait me dire c'est fini, c'est perdu, tu n'y arriveras pas dans des domaines particuliers. Et je peux vous dire que ce n'est pas moi qui fais les choses, mais Dieu m'a mis des convictions à l'intérieur de moi-même. Alors que peut-être les autres pouvaient en rire, ou les autres pouvaient dire « il se fait des idées ». Moi, j'avais cette conviction envers et contre tout. Le monde pouvait trembler autour de moi. Une chose qui est certaine, c'est que j'avais cette conviction. Et simplement, j'ai vu les choses se réaliser parce que j'ai fait davantage confiance à ce que Dieu me disait, ce Dieu de l'invisible que je ne voyais pas naturellement, plus que tout ce qu'il y avait autour de moi et qui était profondément négatif. Ça, c'est la foi. Et s'il y a une chose que nous pouvons demander à Dieu dans notre vie, sur notre chemin pour atteindre le rivage d'en face, parce qu'ils sont quand même arrivés à Rome, hein. Ça ils sont arrivés sains et saufs tous, c'est que une chose qui est certaine, c'est que nous pouvons véritablement nous appuyer sur Dieu et déclarer eh bien qu'il est celui qui accomplit sa parole. C'est la chose la plus merveilleuse qu'un homme ou une femme puisse faire, la foi. Et nous avons vraiment besoin de demander à Dieu qu'il nous donne la foi. C'est un don, la foi. Ce n'est pas une éducation religieuse. Ce n'est pas une culture religieuse, la foi. C'est rien de tout cela. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas, de celles qu'on espère et qui vont se réaliser. Ça, ça ne s'explique pas. C'est Dieu qui le fait. Alors, approchons-nous. Approchons-nous de lui. Recevons sa parole. Laissons-nous imprégner. Et vous allez voir. il se passera des choses formidables et merveilleuses. Combien nous avons vu de gens, à l'imposition des mains ou non, venir parce qu'ils étaient malades et repartir guéris. Combien nous avons vu pour cela des gens qui étaient complètement aux prises avec des addictions, l'alcoolisme, la drogue et toutes sortes de choses, et repartir dans une vie complètement changée et nouvelle. Combien nous avons vu de gens, dans une situation matérielle et économique, repartir sur des bases qui avaient été permises par le Seigneur pour reprendre une vie tout à fait, une vie sociale. C'est ça, hein ? C'est ça justement, le miracle de la foi. Et Paul a fait l'expérience de ce miracle de la foi, et je voudrais simplement terminer sur cette pensée. Ça concernait Paul, mais il a été la bénédiction, et il a favorisé le salut de tous ceux qui étaient dans l'équipage et tous ceux qui étaient sur le bateau. Un homme de foi est une bénédiction pour le monde. Ouais. Un homme qui prie est une bénédiction pour sa famille, pour tout son entourage. Ça, c'est la grâce, c'est la foi, c'est la bénédiction de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et retenons ce message ce soir et demandons au Seigneur eh bien, qu'il augmente notre confiance en lui. Tout simplement. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous savons que tu es vivant. Il y a beaucoup d'hommes qui déclarent que tu es mort, que, Seigneur, tu ne t'intéresses pas, Seigneur, à l'existence de tes créatures, à leur bonheur ou à leur malheur. Et ça, c'est faux, Seigneur. Nous croyons que dans la personne de Jésus, tu es venu vraiment t'approcher de chacun et de chacune, dans ses préoccupations, dans ses inquiétudes, dans ses tracas, dans ses soucis, et parfois, Seigneur, dans ses drames, comme nous l'avons vu ce soir à travers l'histoire de ce naufrage. Et nous voulons te demander ton secours et ton aide lorsque il n'y a plus de soleil, lorsque les étoiles ne brillent pas, Seigneur, dans notre nuit, mais que néanmoins, Seigneur, il y a une chose qui demeurera, c'est ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est une lampe, Seigneur, sur mon chemin. C'est une lumière, Seigneur, sur mon sentier. Et Seigneur, nous pouvons marcher seuls. Nous pouvons être au bout, Seigneur, et en effet, de tout ce que nous avons essayé, de tout ce que nous avons tenté, Seigneur, de faire pour échapper, Seigneur, au péril. Mais néanmoins, Seigneur, ce ne sont pas par nos propres efforts. Ce n'est pas par nos mérites. Ce ne sont pas par nos qualités d'homme. Mais Seigneur, c'est véritablement par la foi. Oui, Seigneur, au nom de Jésus. Je nous rappelle que c'est la démonstration des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. Alors Seigneur, nous voulons tout simplement que tu nous aides, te demander que tu nous aides, Seigneur, non pas à croire parce que nous aurons vu, mais de croire sans voir, Seigneur. Et ensuite nous verrons comment tu es capable de solutionner nos problèmes et nos difficultés et nous délivrer nos âmes de la détresse. Tu nous bénis ce soir, les uns et les autres. Nous avons entendu ta parole, nous l'avons reçue et nous voulons la garder. Seigneur, j'ai envie de te demander pour chacun, Seigneur, donne-moi de faire de belles expériences avec toi. Merci Seigneur, parce que tu es vivant et tu es fidèle, et tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Amen. Amen.